19. La lumière au travers des ténèbres. L'œuvre de Dieu sur la terre présente, de siècle en siècle, une ressemblance frappante dans tous les grands mouvements de réforme religieux. Les principes qui régissent la manière d'agir de Dieu en faveur des hommes sont toujours les mêmes. Les changements importants de notre époque trouvent leur parallèle dans ceux du passé, et l'expérience de l'Église dans l'histoire nous offre des leçons d'une grande valeur pour notre monde d'aujourd'hui. La Bible n'enseigne aucune vérité plus clairement que celle-ci. Dieu, par son Saint-Esprit, dirige spécialement ses serviteurs sur la terre dans les grands mouvements destinés à faire progresser l'œuvre du salut. Les hommes sont des instruments entre ses mains. Il les utilise pour réaliser ses desseins de grâce et de miséricorde. Chacun d'eux a un rôle à jouer. Chacun a reçu une certaine mesure de lumière, adaptée aux besoins de son temps et suffisante pour lui permettre d'accomplir l'œuvre que Dieu lui a confiée. Mais personne, aussi honoré du ciel qu'il ait été, n'a jamais atteint la pleine compréhension du grand plan de la rédemption, ni eu une appréciation parfaite des desseins divins dans l'œuvre destinée à sa propre époque. Les hommes ne peuvent comprendre pleinement ce que Dieu se propose d'accomplir par l'œuvre qu'il leur confie, ni ne saisissent toute la portée du message qu'ils annoncent en son nom. Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu, découvrir jusqu'à la perfection du puissant ? Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et dès le temps jadis ce qui n'est pas encore fait. Les prophètes qui eurent le privilège de recevoir une illumination particulière de l'Esprit ne saisirent pas eux-mêmes toute la portée des révélations qui leur étaient confiées. Le sens de celles-ci devait se révéler de siècle en siècle, au fur et à mesure que le peuple de Dieu aurait besoin de l'instruction qu'elles contenaient. Pierre, écrivant sur le salut mis en évidence par l'Évangile, dit « Ce salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux, Esprit qui d'avance attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Cependant, bien qu'il n'ait pas été donné aux prophètes de comprendre pleinement ce qui leur était révélé, ils cherchèrent avec ferveur à obtenir toute la lumière que Dieu avait bien voulu leur faire connaître. Ils en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux. Quelle leçon pour le peuple de Dieu dans la dispensation chrétienne, au bénéfice duquel ces prophéties furent données à ses serviteurs. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Voyez ces saints hommes de Dieu qui en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations concernant les révélations qui leur avaient été confiées concernant des générations encore à naître. Quel contraste entre leur saint zèle et l'insouciance avec laquelle ceux qui ont été si favorisés dans les siècles suivants traitent ce don du ciel. Quelle réprimande pour l'indifférence de ceux qui aiment leurs aises mondaines et se contentent de déclarer que les prophéties ne peuvent pas être comprises. Bien que leur esprit limité soit incapable d'entrer dans les conseils du Dieu infini, ou de comprendre parfaitement le mécanisme de ses desseins, c'est souvent à cause d'une erreur ou d'une négligence que les hommes saisissent de manière si confuse les messages du ciel. Il n'est pas rare que l'intelligence des gens, même celle des serviteurs de Dieu, soit si aveuglée par les opinions, les traditions et les faux enseignements populaires qu'elle ne peut saisir que partiellement les grandes choses révélées dans la parole de Dieu. Tel fut le cas des disciples du Christ, même lorsqu'il était avec eux personnellement. Leur esprit était imbu d'une conception courante du Messie en tant que prince temporel qui devait faire monter Israël sur le trône de l'Empire universel. C'est pourquoi ils ne purent comprendre la signification de ses paroles annonçant ses souffrances et sa mort. Le Christ lui-même les avait envoyés avec ce message : Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Ce message reposait sur la prophétie du chapitre 9 du livre de Daniel. L'ange avait déclaré que les 69 semaines allaient s'étendre, jusqu'à un chef ayant reçu l'onction. Ainsi, avec de grandes espérances et une joyeuse anticipation, les disciples attendaient l'instauration du royaume du Messie à Jérusalem et sa domination sur la terre entière. Ils prêchèrent le message que le Christ leur avait confié, tout en le saisissant eux-mêmes de manière erronée. Bien que leur prédication reposât sur Daniel 9, verset 25, ils ne se rendirent pas compte que, dans le verset suivant du même chapitre, le Messie devait être retranché. Depuis leur tendre enfance, leur cœur avait attendu la gloire à venir d'un empire terrestre, et cette attente avait aveuglé leur intelligence, tant sur les détails de la prophétie que sur les paroles du Christ. Ils accomplirent leur mission en présentant à la nation juive l'invitation à la miséricorde divine. Puis, au moment même où ils s'attendaient à voir leur Seigneur monter sur le trône de David, ils le virent saisi comme un malfaiteur, flagellé, ridiculisé, condamné et pendu à la croix du calvaire. Quel désespoir et quelle angoisse déchirèrent leur cœur pendant les jours que leur Seigneur passa dans son tombeau. Le Christ était venu au moment exact et de la manière prédite par la prophétie. Le témoignage de l'Écriture s'était accompli dans chaque détail de son ministère. Il avait prêché le message du salut, et sa parole avait de l'autorité. Le cœur de ses auditeurs reconnaissait que celle-ci lui venait du ciel. La parole et l'Esprit de Dieu avaient attesté la mission divine de son Fils. Les disciples étaient restés attachés par une affection indéfectible à leur Maître bien-aimé. Cependant, leur esprit était envahi par l'incertitude et le doute. Dans leur angoisse, ils ne se souvenaient plus des paroles du Christ annonçant ses souffrances et sa mort. Si Jésus de Nazareth avait été le véritable Messie, aurait-il été plongé, comme il l'était alors, dans le chagrin et la déception ? Telle était la question qui torturait leur âme pendant que le Sauveur gisait dans son tombeau au cours des heures désespérées de ce sabbat compris entre sa mort et sa résurrection. Bien que cette nuit de chagrin ait enveloppé de ténèbres ses disciples de Jésus, cependant ils n'étaient pas abandonnés. Le prophète avait dit « Si je suis assise dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. Il me fera sortir à la lumière et je verrai sa justice. » Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Dieu avait déclaré : La lumière se lève dans les ténèbres pour les gens droits. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ne connaissaient pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et le sol accidenté en terrain plat. C'est bien cela que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. L'annonce faite par les disciples au nom du Seigneur était exacte dans chacun de ses détails, et les événements vers lesquels elle attirait l'attention étaient alors en cours de réalisation. Leur message avait été « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché ». À l'expiration de ce temps, les 69 semaines du chapitre 9 de Daniel, qui devaient aboutir au Messie, le chef ayant reçu l'onction, le Christ, avait reçu l'onction de l'Esprit après son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Le règne de Dieu, dont ils avaient annoncé la proximité, fut instauré par la mort du Sauveur. Ce règne n'était pas, comme on le leur avait enseigné, un empire terrestre. Ce n'était pas non plus ce royaume à venir, immortel, qui doit être instauré lorsque la royauté, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, ce royaume éternel dont il est dit « Tous les dominateurs le serviront et l'écouteront ». Telle qu'elle est employée dans la Bible, l'expression « royaume de Dieu » sert à désigner aussi bien le royaume de grâce que le royaume de gloire. C'est Paul qui nous décrit le royaume de grâce dans l'Épître aux Hébreux. Après avoir attiré notre attention sur le Christ, notre intercesseur compatissant, qui n'est pas insensible à nos faiblesses, l'apôtre ajoute « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir compassion et trouver grâce. » Le trône de la grâce représente le royaume de grâce, car l'existence d'un trône implique l'existence d'un royaume. Dans plusieurs de ses paraboles, le Christ utilise l'expression « le règne des cieux » pour désigner l'œuvre de la grâce divine dans le cœur des hommes. De même, le trône de gloire représente le royaume de gloire. C'est le royaume dont parle le Sauveur lorsqu'il nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. toutes les nations seront rassemblées devant lui. Ce royaume est encore à venir. Il ne doit être instauré qu'au moment du second avènement du Christ. Le royaume de grâce fut instauré immédiatement après la chute de l'homme, lorsqu'un plan fut conçu pour la rédemption de la race humaine coupable. Il existait alors dans les desseins et en vertu de la promesse de Dieu, et par la foi, les hommes pouvaient en devenir les sujets. Cependant, il ne fut pas réellement instauré jusqu'à la mort du Christ. Même après avoir commencé sa mission terrestre, le Sauveur, lassé de l'obstination et de l'ingratitude des hommes, aurait pu reculer devant le sacrifice du calvaire. À Gethsémané, la coupe de la souffrance trembla dans sa main. Il aurait pu, encore à ce moment, essuyer la sueur semblable à des gouttes de sang qui coulaient de son front et laisser la race humaine coupable périr dans son iniquité. S'il l'avait fait, il n'aurait pu y avoir aucune rédemption pour les hommes déchus. Mais, lorsque le Sauveur offrit sa vie et, dans son dernier souffle, s'écria « Tout est achevé », alors seulement l'accomplissement du plan de la rédemption fut assuré. La promesse du salut faite au couple pécheur en Éden fut ratifiée. Le royaume de grâce, qui n'avait existé auparavant qu'en vertu de la promesse de Dieu, fut alors instauré. Ainsi, la mort du Christ, l'événement que les disciples avaient considéré comme l'anéantissement définitif de leur espérance, fut celui qui la confirma pour toujours. Bien qu'elle leur ait causé une cruelle déception, elle valida leur croyance qui s'avérait exacte. L'événement qui les avait plongés dans le deuil et le désespoir fut celui qui ouvrit à tous les enfants d'Adam les portes de l'espérance, et celui dont dépendait la vie future et le bonheur éternel de tous les fidèles de Dieu de tous les siècles. Les desseins de la miséricorde infinie étaient en cours de réalisation, malgré la déception des disciples. Leur cœur avait été gagné par la grâce de Dieu et par la puissance des enseignements de celui dont on avait dit « Jamais un homme n'a parlé ainsi ». Néanmoins, mêlé à l'or pur de leur amour pour Jésus, se trouvait le vil alliage de l'orgueil terrestre et des ambitions égoïstes. Dans la chambre haute où ils célébrèrent la Pâque, à cette heure solennelle où le maître pénétrait déjà dans l'ombre de Gethsémané, il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait-il être considéré comme le plus grand? Ils avaient la vision d'un trône, d'une couronne et d'une gloire, alors que, juste devant eux, les attendait la honte du prétoire de Pilate, l'agonie de Gethsémané et de la croix du calvaire. C'est l'orgueil de leur cœur et leur soif de gloire terrestre qui les avait amenés à se cramponner avec tant d'obstination aux faux enseignements de leur époque et à ne pas prendre garde aux paroles du Sauveur, qui leur montrait la véritable nature de son royaume et annonçait son agonie et sa mort. Ces erreurs produisirent l'épreuve, douloureuse mais nécessaire, que Dieu permit pour leur correction. Bien que les disciples se soient mépris sur le sens de leur message et n'aient pas réussi à réaliser leurs attentes, ils avaient pourtant prêché l'avertissement que Dieu leur avait confié. Le Seigneur allait récompenser leur foi et honorer leur obéissance. C'est à eux que serait confiée la mission d'annoncer à toutes les nations le glorieux évangile de leur Sauveur ressuscité. C'était pour les préparer à cette œuvre que Dieu avait permis l'expérience qui leur paraissait si amère. Après sa résurrection, Jésus apparut à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Le cœur des disciples fut ému. Leur foi s'éveilla, Dieu les fit naître de nouveau, pour une espérance vivante, avant même que Jésus se révèle à eux. C'était son dessein d'éclairer leur intelligence et d'asseoir leur foi sur la parole prophétique dont il est dit qu'elle est ferme. Il souhaitait que la vérité s'enracine profondément dans leur esprit, non seulement parce que son témoignage personnel la confirmait, mais aussi à cause des preuves incontestables apportées par les symboles et les ombres de la loi sacrificielle et par les prophéties de l'Ancien Testament. Il était nécessaire que les disciples du Christ aient une foi intelligente, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour pouvoir apporter au monde la connaissance de leur Maître. La première étape pour leur communiquer cette connaissance fut, pour Jésus, de diriger leur esprit vers Moïse et tous les prophètes. Tel fut le témoignage rendu par le Sauveur ressuscité à la valeur et à l'importance des Écritures de l'Ancien Testament. Quel changement dans le cœur des disciples lorsqu'ils purent de nouveau contempler le visage bien-aimé de leur Maître. dans un sens plus complet et plus parfait que jamais auparavant, ils avaient trouvé celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes. L'incertitude, l'angoisse et le désespoir firent place à une assurance parfaite et à une foi sans nuages. Rien d'étonnant que, après l'ascension de Jésus, ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Les gens du peuple, ne connaissant que la mort ignominieuse du Sauveur, cherchèrent sur le visage de ses disciples l'expression du chagrin, de la confusion et de la défaite. Mais ils n'y perçurent que joie et triomphe. Quelle préparation avaient reçu ses disciples pour l'œuvre qui les attendait ? Ils étaient passés par la pire épreuve qu'il leur était possible de vivre et avaient mesuré comment, lorsqu'à vue humaine tout semblait perdu, la parole de Dieu s'était accomplie d'une manière triomphale. Dès ce moment, qu'est-ce qui aurait pu ébranler leur foi ou refroidir l'ardeur de leur amour ? Au sein du chagrin le plus vif, ils avaient trouvé un puissant encouragement, une espérance comparable à une ancre solide et ferme pour l'âme. Ils avaient été témoins de la sagesse et de la puissance de Dieu et étaient persuadés que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans toutes ces choses, disait-il, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La parole du Seigneur demeure pour toujours. Qui condamnera ? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le Seigneur avait déclaré « Plus jamais mon peuple n'aura honte. » Le soir arrivent les pleurs et le matin un cri de joie. Lorsque, le jour de sa résurrection, ses disciples revirent le Sauveur et écoutèrent ses paroles pendant que leur cœur brûlait en eux, lorsqu'ils contemplèrent sa tête, ses mains et ses pieds meurtris pour eux, lorsque, avant son ascension, Jésus les conduisit jusqu'à Béthanie et, levant les mains pour les bénir, leur ordonna « Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle », ajoutant « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Lorsque, le jour de la Pentecôte, le défenseur promis descendit, que la puissance d'en haut leur fut accordée et que l'âme des croyants vibra de la présence consciente du Seigneur monté aux cieux, alors, même si leur chemin, comme le sien, passait par le sacrifice et le martyre, auraient-ils accepté d'échanger le ministère de l'Évangile de sa grâce et la « couronne de justice » qui leur sera accordée au moment de son avènement contre la gloire d'un trône terrestre qui avait été leur espérance au cours de leurs premières années de disciples ? Celui qui peut « faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons » leur avait accordé, en même temps que la « communion de ses souffrances », la communion de sa joie, celle de « conduire beaucoup de fils à la gloire », une « joie indicible », un « poids éternel de gloire », qu'on ne peut comparer, nous dit Paul, au « moment de détresse insignifiant » qui ne dure qu'un instant. L'expérience des disciples, qui prêchèrent la bonne nouvelle du règne lors de la première venue du Christ, trouve sa contrepartie dans l'expérience de ceux qui proclamèrent le message de son retour. Les apôtres avaient proclamé « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché ». De même, William Miller et ses collaborateurs témoignèrent que la plus longue et dernière période prophétique présentée dans la Bible était sur le point de se terminer, que le jugement était proche et que le royaume éternel allait être instauré. La prédication des disciples, en ce qui concerne le temps, reposait sur les 70 semaines du chapitre 9 de Daniel. Le message donné par William Miller et ses collaborateurs annonçait l'aboutissement des 2300 jours de Daniel 8, verset 14, dont font partie les 70 semaines. Le message des uns et des autres reposait sur l'accomplissement d'une partie différente de la même grande période prophétique. Comme les premiers disciples, William Miller et ses collaborateurs ne saisirent pas pleinement eux-mêmes la portée du message qu'ils professaient. Des erreurs, ayant cours depuis longtemps dans l'Église, les empêchèrent d'arriver à l'interprétation correcte d'un point important de cette prophétie. C'est pourquoi, bien qu'ils aient enseigné la révélation que Dieu leur avait confiée pour le monde, À cause de ces erreurs, ils rencontrèrent une amère déception. En expliquant Daniel 8, verset 14, « Jusqu'à 2300 soirs et matins, après quoi le sanctuaire sera rétabli, purifié, d'après certaines traductions de la Bible », William Miller, comme cela a déjà été mentionné, adopta l'opinion généralement admise que la terre est le sanctuaire et crut que la purification du sanctuaire représentait la purification de la terre par le feu lors de l'avènement du Seigneur. Lorsqu'il découvrit que l'aboutissement des 2300 jours était annoncé avec précision, il en conclut donc que c'était l'époque du retour du Christ. Son erreur provenait de ce qu'il avait accepté l'opinion populaire sur ce qui constitue le sanctuaire. Au temps de Moïse, dans le système cérémoniel des sacrifices, qui était une ombre du sacrifice et du sacerdoce du Christ, la purification du sanctuaire était le dernier service accompli par le souverain sacrificateur. C'était l'œuvre finale de l'expiation, l'enlèvement du péché d'Israël. Elle préfigurait l'achèvement du ministère de notre souverain sacrificateur dans le ciel, qui consiste à extirper ou à effacer les péchés de son peuple inscrits dans les registres célestes. Ce service implique une enquête ou un jugement. Il précède immédiatement l'avènement du Christ venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Car, lorsqu'il reviendra, chaque cas individuel aura été décidé. Jésus a déclaré « J'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. » C'est cette procédure précédant immédiatement le second avènement qui est annoncée dans le message du premier ange. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Ceux qui proclamèrent cet avertissement prêchèrent le message approprié au bon moment. De même que les premiers disciples avaient déclaré « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché », se reposant sur la prophétie du chapitre 9 de Daniel, sans s'apercevoir que ce texte prédisait aussi la mort du Messie, de même, William Miller et ses collaborateurs prêchèrent la révélation reposant sur Daniel 8, verset 14 et Apocalypse 14, verset 7, en ne prenant pas conscience de l'intégralité de ce chapitre, qui contenait encore d'autres informations destinées aussi à être transmises avant l'avènement du Seigneur. Comme les disciples s'étaient mépris en ce qui concerne le royaume qui devait être instauré à la fin des 70 semaines, les adventistes se méprirent à propos de l'événement qui devait avoir lieu à l'expiration des 2300 jours. Dans l'un et l'autre cas, des erreurs populaires aveuglèrent l'esprit des croyants. Les uns comme les autres accomplirent la volonté de Dieu en délivrant le message que Dieu souhaitait voir prêché. Dans les deux cas, les uns comme les autres, à cause d'une compréhension erronée du contenu des textes, connurent une amère déception. Cependant, Dieu accomplit ses desseins bienveillants en permettant que l'annonce du jugement soit donnée exactement comme elle le fut. Le grand jour était proche. Dans la providence de Dieu, son peuple fut soumis à l'épreuve pendant une période de temps précise afin que soit révélé ce qui était dans le cœur de chacun. Le but de ce message était d'éprouver et de purifier l'Église. Les membres devaient être amenés à se rendre compte si leurs affections étaient fixées sur le monde ou sur le Christ et le ciel. Ils professaient aimer le Sauveur. Le moment était venu de prouver leur amour. Étaient-ils prêts à renoncer à leurs espérances et à leurs ambitions terrestres et à saluer avec joie l'avènement de leur Seigneur? La finalité de cette proclamation était de permettre à chacun de discerner son véritable état spirituel. Ce message fut envoyé par miséricorde de Dieu pour amener l'Église à rechercher le Seigneur dans la repentance et l'humiliation. La déception des disciples, bien qu'elle ait été le résultat d'une compréhension erronée du message qu'ils prêchèrent, devait aussi concourir à leur bien. Elle allait éprouver le cœur de tous ceux qui avaient proclamé accepter cet avertissement. Face à cette déception, allaient-ils abandonner sans réfléchir leur expérience spirituelle et rejeter leur confiance dans la parole de Dieu? Ou bien allaient-ils, dans la prière et l'humilité, chercher à discerner en quoi ils avaient failli concernant la compréhension du sens de cette prophétie? Combien d'entre eux avaient été motivés par la peur, ou par une simple impulsion, ou par l'effet de l'excitation? Combien manquaient d'enthousiasme et de foi? Des multitudes déclaraient aimer l'avènement du Seigneur. Lorsqu'elles seraient appelées à subir les moqueries et l'opprobre du monde, et l'épreuve de l'erreur et de la déception, renonceraient-elles à leur foi? Parce qu'elles n'avaient pas immédiatement compris les voies de Dieu à leur égard, rejetteraient-elles les vérités reposant sur le témoignage évident de sa parole? Cette épreuve allait révéler la force de caractère de ceux qui avaient obéi avec une foi sincère à ce qu'ils croyaient être l'enseignement de la parole et de l'Esprit de Dieu. Elle allait leur enseigner, comme seule une telle expérience pouvait le faire, le danger d'accepter les théories et les interprétations des hommes au lieu de faire de la Bible son propre interprète. Pour les enfants de la foi, la perplexité et le chagrin résultant de leur erreur allaient leur apporter la correction dont ils avaient besoin. Ils allaient être amenés à une étude plus approfondie de la parole prophétique et à examiner plus soigneusement les bases de leur foi en rejetant tout ce qui, aussi généralement accepté par le monde chrétien qu'il le soit, ne repose pas sur les Écritures de vérité. Pour ces croyants, comme pour les premiers disciples, ce qui semblait obscur à leur intelligence à l'heure de l'épreuve allait être expliqué plus tard. Lorsqu'ils verraient la fin que le Seigneur lui a accordée, ils sauraient que, malgré l'épreuve provoquée par leurs erreurs, ces desseins d'amour à leur égard s'étaient fidèlement accomplis. Ils apprendraient par une expérience bénie que le Seigneur est plein de tendresse et de magnanimité, et que tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes.